Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il la suit. L'appartement est mal éclairé. Il semble vieux. Et meubles, le meuble ancien, 1930. Elle ouvre une porte. Entrez. Il est entré. C'est une pièce pleine d'ombre. Elle lui dit, venez vous asseoir. Elle le mène à un fauteuil. De cuir noir. Il s'y assoit. Elle s'assoit sur le fauteuil en face de lui. Elle lui dit, vous avez de la chance, parce que les personnes de l'immeuble sont toutes des personnes âgées. Et si vous avez entendu, les gens ici sont du côté des hommes en noir. Il lui demande, qui sont ces hommes en noir qui font si peur? Elle lui dit, je ne sais pas. Ils tuent tout ce qui bouge. Il lui demande, et que fait la police? Elle lui dit, la police est avec eux. Il y a même des policiers qui sont des leurs. Et vous? Qui êtes-vous? Il lui dit, moi je traîne en fait. J'habite un grenier avec un ami. Mais j'ai été obligé, c'est de fuir, parce que les hommes en noir sont venus dans mon allée. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Il lui dit, quelques mois. Elle lui demande, et avant? Il lui dit, une autre vie que j'étais obligé de quitter. Et puis, et vous? Elle lui dit, moi, eh ben, je vis ici toute seule. Je suis secrétaire dans le groupe Franc-Blanc. Il fait « Ah !» et se dit que le monde est bien petit. La fatigue, la faim, lui donne des vertiges. Il voit tout rouge. Elle le voit, lui demande « Vous n'êtes pas bien ?» Il lui dit « Ce n'est rien. » Elle lui dit « Je vois ce que c'est. Je vais vous chercher quelque chose à manger. » Il lui dit mollement, mais je ne veux pas vous déranger, Et puis, c'est à vous. Les temps sont durs. Elle lui dit, je gagne très bien ma vie, convenablement ma vie. Et puis, je mange à midi à la cantine du siège. C'est très bon. Elle se lève et sort de la pièce. Il est dans son fauteuil, faible, il a froid. Il se dit, si les hommes en noir entrent, je ne pourrai même pas me défendre. Elle revient avec un bol et une cuillère. Elle lui tend, tenez, c'est de la farine à bébé, ça se digère facilement. Il boit, ça lui fait du bien. Ça a le goût du petit beurre, c'est chaud, le liquide est assez épais. Il sent son ventre se gonfler. Après avoir bu, il lui dit, merci. Et pose le bol sur la table basse. Qui était à ses pieds. Elle lui dit, il va falloir dormir maintenant. Il lui dit, merci, je dormirai très bien. Ici, elle lui dit, je vais pas dormir ici, venez. Il se lève. Et elle le guide en le maintenant un petit peu. Ils sortent du salon. Elle ouvre une porte, éclaire, et le fait entrer. C'est ma chambre. Il y a un lit à deux places, édredon rouge sur le lit, armoire à deux portes, table de nuit, coiffeuse. La pièce sent la naphtaline. Elle lui dit, c'est la chambre de ma mère qui est morte il y a 5 ans. Il lui dit, je suis confus. Elle lui dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. Allez, déshabillez-vous et au lit. Vous serez très bien. L'édredon est très chaud. Elle l'embrasse sur la joue. Bonne nuit. Et sort de la chambre. Une fois seul, épuisé, il se déshabille. Ou plutôt, il enlève ses guenilles qui sont déchirées et sales. Une fois en slip, il a honte parce qu'il est sale. Il se dit qu'il va sûrement salir les draps. Mais comment faire? Alors, il ne sait pas où est la salle de bain. Il se dit, je ne peux pas coucher dans un lit. Alors, il couche à terre, sur le plancher. De toute façon, c'est mieux que dans le grenier. Il fait moins froid. Le lendemain, il est réveillé par le jour qui vient des persiennes. Il a froid et est tout courbaturé. S'habille. Et attend. Un quart d'heure d'attente, il entend du bruit. Une porte qui claque. Des pas. Des pas dans le couloir. Une autre porte. L'eau du robinet. Le bruit du couvert. Une porte, des pas, une autre porte, la douche, et le silence. Frédéric attend. Puis, une porte, des pas, on frappe à la porte. Entrez. C'est elle qui rentre. Elle lui dit: vous êtes déjà debout? Mais, et le lit? Je sais, c'est que vous n'en êtes pas servi. Il lui dit confus: j'avais peur de salir les draps. Elle hausse les épaules et lui dit: mais les draps, ça se lave. Oh, et puis c'est de ma faute. J'aurais dû vous montrer la salle de bain. Vous avez dormi comment? Il lui dit: à terre. Elle lui dit: c'est très inconfortable. Allons prendre le petit déjeuner. Il faut que je parte travailler. Il lui dit: je suis confus. Elle lui dit: mais non, pas du tout. C'est moi qui suis confuse. Venez. Et il la suit. Sur la chambre, elle le mène à la cuisine. C'est une petite pièce rectangulaire qui est à guère plus la longueur, la largeur, je veux dire, d'une fenêtre. Elle est meublée, rustique. Il y a une petite table juste pour deux. Le petit déjeuner est déjà sur la table. Elle le fait asseoir. Elle lui demande: café? Oui. Café seul? Oui. Elle le sert. Tenez. Merci. Et elle se sert. Et ils commencent à prendre leur petit déjeuner. Elle lui dit: après, vous pourrez si vous voulez, mais vous ferez vite prendre votre douche. Il lui dit: je ne veux pas vous déranger. Elle lui dit: mais non, c'est moi qui vous le propose. après qu'il ait pris son petit déjeuner et allé prendre sa douche. Elle lui dit « J'ai pas de vêtements à vous proposer, que des vêtements de fille. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça vous évitera de vous faire prendre par les hommes en noir ?» Elle lui dit « Non merci, je ne peux pas. » Elle lui demande « Et que comptez-vous faire ?» Il lui dit « Je ne sais pas, mon ami a disparu et je me trouve seul. » Il a disparu comment ? Il lui dit, je ne sais pas, il paraît qu'un médecin est venu le chercher. Elle lui dit, c'est peut-être sûrement des hommes en noir qui sont venus le prendre pour l'exécuter. Elle regarde sa montre et lui dit, tu dois y aller, autrement mon chef va me faire une de ses réflexions. La demoiselle Lapin est très pointilleuse sur les horaires. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous restez là ? Il lui dit, non, je ne peux pas. Je vais retourner là-bas. Après, je verrai. Et ils quittent l'appartement ensemble. Une fois dehors, elle lui demande « Tu vas de quel côté ?» Il le lui indique. Elle lui dit « Bon, eh bien, au revoir. » Elle l'embrasse sur la joue. « Tu es mignon tout de même. Fais attention à toi. » Et elle s'éloigne. Lui retourne à sa vie, à sa rue. La rue semble calme, mais un silence pas normal. Il n'y a personne dans les rues. À terre, quelques taches de sang. Des meubles qui ont été jetés par les fenêtres. Les immeubles ont des vitres brisées, les portes des allées défoncées. Il va rentrer dans son allée. Il entre dans son allée. Silence de mort. Les escaliers pleins de meubles glacés, du sang sur les murs, des trous de balles. Des portes d'appartements laissées ouvertes où l'on voit de partout du carnage, des flaques de sang. On dirait que tout l'immeuble a été vidé de ses occupants. En passant devant un appartement, passe un chat qui miaule. Frédéric ceci, je vais aller de suite. En haut, je ne peux pas rester ici, c'est impossible. Sort d'un appartement un vieil homme, cheveux blancs, très maigre, habillé d'un vieux costume gris. L'homme lui dit, « Vous êtes de retour ?»« Oui, » l'homme lui dit, « Il ne reste plus rien, rien de rien. Et ils ont tous tué et amené les cadavres. » Frédéric demande, « Et pourquoi ils les ont tués ?» L'homme lui dit, « Parce que nous ne sommes pas des gens bien. Pour eux, l'on pue la misère. » Frédéric demande, « Et vous ?» L'homme lui dit, « Moi, j'étais caché. J'ai ouvert la fenêtre, monté sur le rebord et je me suis tenu à la moulure. J'ai attendu comme ça pendant des heures. Puis une fois que ça a été fini, je suis retourné ici. Et vous, pourquoi est-ce qu'on vous a rien fait ?» Frédéric lui dit, « Moi aussi, je suis monté sur les toits. » L'homme lui dit, « Nous sommes des rescapés. » Frédéric lui dit, « Oui. Et qu'allez-vous faire maintenant ?» L'homme lui dit, « Continuez à vivre. Ils ne reviendront pas de si tôt. Ils attendront que l'immeuble se re-remplisse. Mais je crois que dans quelque temps, Franblanc va venir démolir tout ça, toute la rue, au groupe. Ça, ça les arrange, cette chose. Plus la peine d'expulsion, ni de reloger. Pour être... Peut-être est-ce mieux pour eux. Peut-être, mais enfin, pendant quelque temps, on va nous laisser tranquilles, pendant un moment, pour qu'on oublie les hommes en noir. Ça ne fait pas bien. Après, ce sera les hommes francs blancs qui vont finir le travail. Frédéric lui demande, ça se passe toujours comme ça? Il lui dit, je ne sais pas. Mais dans certains endroits, oui. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Frédéric lui dit, je ne sais pas trop, mon ami est disparu et je suis seul. L'homme lui dit, ils l'ont tué, votre ami. Et pourquoi ? Parce que c'est un SDF et qu'il était bien aimé des gens du quartier. Ça, ça n'est pas bien. Frédéric lui dit, bon, je vais monter pour voir ce que je peux faire. Et il monte au grenier. Au grenier, il trouve tout en ordre. Ils ne sont pas venus jusque-là. Frédéric s'assoit sur le rebord du lit et se dit, que faire? Est-ce que ça vaut la peine de rester au milieu de ces gens? Est-ce que ça vaut la peine de mourir de faim, de risquer sa vie? Là, je me bats contre la température, les gens, la faim et tout. Est-ce qu'un surhomme serait comme ça? Peut-être que oui, mais ce serait lui, le chasseur. Lui, là, on me traite comme une sous-race, une bête à tuer. Mais ceux qui nous chassent ne sont pas des surhommes. La preuve, ils ont tué le brave Didier, qui lui en était un, et sans le savoir. Pauvre Didier. Frédéric n'est pas le seul à penser à Didier, à se dire que c'est un être à part, surtout à cause de son physique et parce qu'il a déjà passé à la clinique jeune touriquin. Après l'avoir examiné, il y a bien la preuve que c'est une personne exceptionnelle. Une personne qui a eu une greffe, ou qu'on lui a fait un traitement ADN, ou qu'on lui a redonné vie et marqué sur son corps d'une façon indélébile. Il y a un chiffre qui donne le nom de la personne, l'âge, l'année où ça s'est passé dans la clinique, le pourquoi. L'on marque aussi le pourquoi de cette intervention. Et c'est pour ça que le chirurgien de la clinique a décidé de lui redonner vie. Parce qu'il a été l'ami de Dalien Diap, le PDG du groupe Jeune Tout. L'ami d'un président, c'est sacré. On doit tout faire pour le faire revivre, ressusciter. Mais de tout ça, Frédéric ne le sait pas. Il ne sait pas que Didier va être mis dans une boule étanche, nue, et qu'on lui balancera de l'oxygène, des ondes électriques et du sang. On va l'opérer du cerveau pour voir ce qui a été détruit ou animé. Et ensuite, essayer de le remettre en route. Mais de tout ça, vous le savez déjà, depuis Imami. Donc Frédéric se demande ce qu'il va devenir. Ici, dans ce lieu où personne ne le connaît, et puis ses études, son avenir, ce n'est pas en restant dans ce grenier qu'il peut arriver à quelque chose, et en plus il risque la mort à chaque instant. Il se dit, non, je ne peux pas rester ici, c'est impossible, il faut que je rentre. Il se lève, regarde autour de lui, voit sur le porte-manteau un foulard rouge en laine, c'est celui de Didier. Il le prend, ça fera un souvenir de lui. Il se le met. Descend les escaliers de l'immeuble et sort de l'immeuble. Il est 10h du matin. Il fait doux, se dirige vers l'île Saint-Louis. Il va du côté des quais de Seine. Et suit la Seine. Ça lui fait bizarre de retourner chez lui. Il voit grandir en face de lui Notre-Dame. C'est beau. On a de la chance. d'habiter Paris et d'être près de Notre-Dame, de ne pas être pauvre, d'être trop riche. Des quarts de touristes, la foule, il y a Notre-Dame. La cité est toujours aussi belle, comme si loin, écartée, minable, misérable. Il longe l'église, traverse l'esplanade, traverse la rue, va vers l'immeuble qui fait l'angle, le bel immeuble à droite. Il est arrivé. Il ne reste plus qu'à sonner à l'interphone. Peut-être qu'à cette heure-là, il n'y aura que les domestiques. Il aimerait mieux qu'ils soient tous là. Comme ça, ce sera fait une seule fois. Il va y avoir des cris, peut-être des gifles, des punitions. Et puis, avec la tenue que j'ai, allons. Sonnons. Oui, c'est le domestique. Je suis Frédéric. Oh, monsieur, entrez. Il se dit, mince, ils ne sont pas là. Je vais être obligé de les attendre dans ma chambre. Et le domestique va leur dire, monsieur Frédéric est de retour. Quelle horreur! Il entre dans l'allée. Il entre dans son allée. L'allée lui semble plus grande et plus claire que dans ses souvenirs. Il va prendre l'ascenseur. Appuie. Il va jusqu'au dernier étage. Sort de l'ascenseur. Il se trouve devant la porte de l'appartement de ses grands-parents. Il sonne. La porte est ouverte, c'est domestique. Tiens, il le croyait plus jeune et plus fort. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Il hésite et se dit, il faut se jeter à l'eau. Il demande, il y a quelqu'un ? Domestique lui dit, « Oui, monsieur, madame, votre grand-mère est au salon et vous attend. Je voulais vous y conduire. » Il se dit, « Ça va être ma fête. » Il entre. Il suit le domestique qui le mène au salon. Il frappe à la porte.
« Entrez !»
Il ouvre la porte et annonce « Monsieur Frédéric, madame. » Et Frédéric entre. Il entend derrière lui la porte se refermer. Elle est là, debout. L'air revêche. Une robe noire. Elle lui dit « Approche !» Il s'approche. Elle lui a donné une gifle. Elle lui dit «
Dans quel état es-tu? Et tu oses te montrer à moi comme ça? »
Il ne dit rien. Elle continue.
Où étais-tu?
Il lui dit, dehors, avec un ami. Elle lui dit,
tu te rends compte? Dans quel état tu nous as mis? Toutes les polices sont à ta recherche. Et tu reviens comme ça, comme si de rien n'était. Tu te moques de nous?
Il ne dit rien. Elle hausse les épaules et lui dit,
tu dois me dire tout ce que tu as fait durant ta fugue. Et d'abord, pourquoi es-tu parti comme ça ?
Il lui dit, parce que j'en avais assez d'être la chose de mon frère.
Elle touche les épaules et lui dit, ton frère, il a bon dos. Lorsque tu as disparu, il est tombé malade. Il avait peur de ne plus te revoir, le pauvre. Et toi, pendant ce temps, que faisais-tu ?
Frédéric lui dit, j'ai survécu, vécu à la rue, j'avais faim, peur de me faire tuer, mais j'avais quelqu'un de très gentil.
Elle lui dit, si tu es mort de faim, c'est de ta faute. Va dans ta chambre et attends le retour de ton grand-père. Mets-toi en tenue convenable. Allez, va.
Frédéric lui dit, j'ai faim.
Elle lui dit, il n'est pas l'heure de manger. Ici, l'on mange à l'heure. On n'est pas chez les va-nu-pieds. Si les gens qui t'ont hébergé te nourrissaient à toute heure, ce n'est pas bien pour toi. C'est une mauvaise habitude.
Il lui dit, mais la personne qui m'hébergeait n'avait presque rien à me donner à manger. Il me donnait la moitié de sa part.
Et elle lui dit, tu devrais avoir honte de prendre le pain des pauvres, toi qui as tout.
Il t'en faut encore. Il lui dit, vous devez avoir raison. Je n'ai pas pensé à ça.
Et elle lui dit, allez, va dans ta chambre.
Il se retire. Pour aller dans sa chambre. Là, il la trouve très claire, lumineuse. Tout est bien rangé. Il se sent mal à l'aise. Il va dans la salle de bain. Elle sent bon. Là aussi, tout est en ordre. Il se dit qu'il va tout déranger et sans lire. Dommage. Et dire qu'avant, il ne faisait pas attention à la salle de bain. C'était une pièce pour se laver. Il se déshabille. Et il veut prendre sa douche. Il ne se souvient pas vraiment comment il faut faire pour prendre son bain, pour ouvrir l'eau et le robinet. Comment faire ? Douche ou bain ? Pour que l'eau coule dans le pommeau de la douche. Après plusieurs essais, il a tout inondé. Il fallait tourner contre le mur le bec de cygne. Il s'en souvenait plus. Il entre dans la baignoire. Maintenant, il faut faire le mélange de l'eau. Là aussi, ce n'est pas facile. Il s'ébarbouille vite. Il se dit qu'il aurait dû demander des explications aux domestiques. Maintenant, c'est trop tard. Après avoir pris sa douche et bien rincé, il lui semble que la vie intérieure est finie. Il s'essuie. Et sort de la salle de bain. Dans sa chambre, il ouvre l'armoire pour se choisir des vêtements pour s'habiller. Il décide de s'habiller de noir et chemise blanche. Ça lui donnera un côté Hamlet. Et puis, le noir lui fait ressortir la blancheur de sa peau. Il aura l'air plus délicat. Et peut-être que son grand-père, troublé par lui, n'osera pas trop le battre. Parce qu'il va sûrement le battre. Le pauvre. Une fois habillé, il va s'asseoir sur le rebord du lit. Le temps passe. Il se dit, si seulement il pouvait être mort, une bonne crise cardiaque, mon Dieu, une bonne crise cardiaque. Le temps passe. Un coup de sonnette. Des pas. Une porte qui s'ouvre. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Madame vous attend au salon.
C'est urgent.
Le maître d'hôtel lui dit. Me semble, monsieur.
Bien, j'y vais. De ce pas.
Frappe à la porte.
Entrez.
Entre. Le silence. Un silence pesant. Surtout lorsque l'on sait que l'on parle de soi. Une porte qui s'ouvre. Des pas. On frappe à la porte. Frédéric se lève.
Entrez.
Entre son grand-père. Qui fonce sur lui. Le gifle.
Où étais-tu?
Ta grand-mère m'a dit que tu ne voulais rien dire. Parle. Frédéric lui dit.
J'étais dehors.
Le grand-père hausse ses épaules et lui dit
« Tu vas me faire croire que tu as passé tout ce temps dehors ?»«
Oui. »«
Où ? Quoi ?»«
Rien. J'ai traîné, voilà tout. J'avais faim. »
Il dit ça parce qu'il a toujours faim. Le grand-père lui demande
« Et qu'as-tu fait pour manger ? Et où as-tu dormi ?»
Frédéric lui dit
« J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. »
Où ? On t'a aidé ? Toi, comme un pauvre ? Quelle honte !
Frédéric lui dit,
mais il ne le savait pas.
Assez parlé. Pourquoi es-tu parti ?
Frédéric lui dit,
j'en avais assez que mon frère me prenne pour sa chose.
Le grand-père lui dit,
tu aurais pu me le dire.
Frédéric lui dit,
j'aurais bien aimé, mais ça n'a pas marché. Alors je suis parti comme ça, au hasard.
Ton grand-père lui dit,
et tu n'as pas pensé à la peine, aux soucis que tu nous faisais.
Je ne savais pas,
ton grand-père lui dit.
Tu sais que la police te recherche. Je vais leur dire que tu es de retour. Ils vont sûrement... C'est venir te voir, te poser des questions. Ça va nous coûter cher cette histoire. La police va nous demander les frais, à payer les frais.
Frédéric, tu dis, je suis vraiment navré.
Tu ne fais que dire ça. Il ne faut plus que tu recommences ces choses. Parce que la prochaine fois, ce sera le juge et la maison de redressement Pontoise Plus, en Auvergne, dans un camp, jusqu'à la fin de tes jours, c'est-à-dire 6 mois. Les lois sont devenues plus dures. Et un jeune qui est pris, qui traîne, a une peine lourde. Alors tiens-toi un carreau. J'espère que cette histoire ne va pas nous amener chez nous des gens peu recommandables.
Frédéric, tu dis, mon ami a disparu. Il est sûrement mort. Tu ne risques rien. Le grand-père lui dit,
tu restes dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre.
Frédéric, tu demandes, et mes cours,
nous verrons.
Frédéric lui dit, oui, bien sûr. Auguste lui dit,
tu comprends, t'as fait une grosse bêtise et qui pourrait aller loin. Les personnes qui font des fugues comme ça, ce sont des instables. Ou ils ont des problèmes. Ils doivent être examinés par des médecins. Alors ne recommence plus ça, parce que la police pourrait nous forcer à te faire suivre par un médecin. Allez, je te laisse. Je dois prévenir la police que tu es de retour.
Et là, il te dit, j'ai faim.
Ah oui, tu as faim. Je vais dire au domestique de t'apporter quelque chose. Et il sort.
Il va au salon.
Entrez.
Silence. Il va vers sa femme et lui dit,
dis au domestique de lui apporter quelque chose à manger.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.